les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et c'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous voici repartis en vadrouille sur le territoire hébroïcien à la rencontre de ses habitants et des acteurs locaux. Aujourd'hui, nous avons posé notre studio mobile sur les pelouses de la maison de quartier de Netreville, qui est d'ailleurs en rénovation, à l'occasion des portes ouvertes de l'association AL2E. Nous aurons l'occasion d'y revenir bien longuement durant 7h ou 7h30 qui est devant nous. Et plus particulièrement, en tout cas, nous reviendrons sur l'action centre social. Vous l'aurez compris, nous parlerons action sociale, jeunesse, famille, vie locale, et ça, vous le savez, ce ne sera pas pour nous déplaire. Pour assurer la radiopropulsion jusqu'à vos oreilles de cette émission, je me suis entouré, et oui, à lui seul, de l'invincible Monsieur Pignon.
Vous voulez du frais, du naturel ? Écoutez Principe Actif, 102.4 FM.
Et durant cette émission, nous aurons l'occasion de parler jeunesse, nous aurons l'occasion de parler vie locale, secteur famille. Nous échangerons également avec Alternatiba et nous parlerons bien entendu d'activités loisirs détente. Mais tout de suite, commençons par le début et je reçois Lucas Ozou, président de l'association AL2E et Didier Roucher, vice-président de cette association AL2E. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Alors ma toute première question va être, qu'est-ce que l'AL2E, l'Amicale Laïque Évreux-Est? C'est une association toute fraîchement sortie de terre. Quelle est cette association AL2E?
Alors AL2E, donc effectivement c'est Amicale Laïque d'Évreux-Est. Cette association est née d'une volonté de rapprocher les quartiers de Netreville et du Clos-au-Duc. Et donc l'association est née de la fusion de l'association du Clos-au-Duc et de l'Amicale Laïque d'Évreux-Netreville, ayant chacune des vocations un peu différentes, mais qui dans le cadre de ce rapprochement ont trouvé des points communs, et notamment un point commun qui est de développer un équipement à vocation sociale auprès des publics des deux secteurs.
Alors historiquement, il y avait des actions et des structures sur le Clos-au-Duc et sur Netreville. Pourquoi rapprocher les quartiers? Est-ce que c'est lié à des habitudes de vie des habitants? Enfin, en quoi
Tout à fait. Le point de départ était plutôt une réflexion autour d'une communauté d'habitants en termes de bassin de vie. À titre d'exemple, c'est vrai que les habitants du Clos-au-Duc, lorsqu'ils ont une lettre recommandée à aller chercher, c'est plutôt à la poste de Netreville. Et donc les services publics auxquels sont rattachés les habitants du Clos-au-Duc sont situés majoritairement à Netreville. Les lignes de bus sont les mêmes pour le Clos-au-Duc et pour Netreville. Donc on est vraiment sur une définition d'une identité des quartiers est d'Évreux, et ça a été le point de départ de la réflexion et du rapprochement des tissus associatifs sur ces deux secteurs.
À demi-mot, vous étiez en train de dire que l'administration avait pris de l'avance sur le tissu associatif, ce serait bien la première fois.
De fait, effectivement, on peut le dire comme ça, mais c'est aussi la volonté de se rapprocher, c'est aussi issu de l'élaboration d'un diagnostic de territoire. Ce diagnostic de territoire a fait émerger, même si la physionomie des deux quartiers est un peu différente, a fait émerger des problématiques identiques. Je pense par exemple à l'isolement. Le problème de l'isolement de certains publics est un point commun sur les deux territoires. La nécessité d'accompagner des publics jeunes à la fois sur le 8 mai, qui est un secteur du Clos-au-Duc, et sur Netreville, est une une nécessité commune. Offrir des points d'accueil, c'est une nécessité commune. C'est un, voilà, c'est un point commun des deux secteurs.
Vous venez d'évoquer un diagnostic de territoire. Absolument. Alors nous souhaiterions en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'un diagnostic? Qui le fait? Comment ça s'organise, un diagnostic de territoire?
Alors, un diagnostic de territoire est justement a pour objet de faire émerger les besoins sociaux d'un secteur. Et donc c'est ce qui sert de base à la création et à une demande, à une recherche d'agrément et de constitution d'un centre social sur un secteur.
Alors justement, on va y arriver. Aujourd'hui, la L2E est porteur d'un projet centre social. Qu'est-ce qu'un centre social? À quoi ça sert et comment ça fonctionne?
Alors, un centre social, c'est un équipement de quartier à vocation sociale globale.
Il va falloir revenir sur ce qu'est une vocation sociale globale.
Alors, une vocation sociale, en fait, c'est un équipement qui offre à l'ensemble de la population du secteur une offre d'accueil, d'activités, de services à finalité sociale. J'évoquais tout à l'heure l'accueil des jeunes, j'évoquais l'accueil des familles. L'accueil des familles, par exemple, il y a certaines problématiques du type accès aux droits qui peuvent être abordées. Et donc les travailleurs sociaux qui sont employés dans un centre social peuvent très bien accueillir les familles et les orienter vers les institutions qui sont à même et les aider dans la constitution des dossiers qui... en termes d'accès à des droits spécifiques.
Du coup, le public accueilli sur un centre social, c'est uniquement un public qui aurait des besoins à caractère tout d'orientation public, ou finalement tout public, peut être...
Tout public peut être accordé dans un, peut être accueilli pardon, dans un centre social, puisque la vocation du centre social aussi, c'est d'offrir un panel d'activités, l'objectif principal étant de créer du lien entre les habitants. L'objectif aussi, c'est que les habitants du quartier s'approprient le développement d'activités au sein du centre social. Donc c'est vraiment une promotion dans l'animation, mais je vais laisser Didier Roucher intervenir, dans la promotion des activités, des activités d'animation du territoire. C'est vraiment la volonté de promouvoir les initiatives des habitants.
Il y a une notion de participation, Didier Roucher.
Il y a une importante notion de participation. Le centre social, il se fait uniquement avec la participation des habitants. Le diagnostic sont déjà des remontées d'habitants et tout se fera en collaboration avec les habitants sur le quartier, sur les différents ateliers. Là, pour exemple, fin du mois, il va y avoir une élaboration des vacances de la Toussaint avec les familles et les enfants. Donc ce sont des actions qui vont être faites par les habitants, accompagnées par les professionnels, mais par les habitants. Et de ce fait-là, c'est le lien social qui se crée à travers des actions bien précises. J'ajoute que les sections aussi servent à créer du lien social avec le centre social, parce que les sections 1000 adhérents, on peut pas, même s'ils font de la gymnastique, du yoga ou autre, ils vont se rapprocher du centre social dans les différentes actions, et c'est aussi des bras de bénévoles.
Ce que vous appelez section, c'est notamment le catalogue d'activités socioculturelles qui sont proposées tout au long de l'année.
Une cinquantaine d'activités.
Voilà. Je voulais revenir sur cette participation des habitants. À quel niveau elle se situe? Est-ce qu'elle se situe au niveau du pilotage de l'association? Est-ce qu'elle se situe au niveau de l'utilisation de cofinancement? Ça, on l'a déjà entendu, par exemple, les financements, les autofinancements, les choses comme ça. À quel niveau se situe la participation des habitants?
La participation des habitants se situe à différents niveaux. Ça peut être effectivement, comme toute association à L2E est structurée autour d'un conseil d'administration constitué majoritairement d'habitants des quartiers considérés, quartier du Clos-au-Duc et Netreville. Mais la structuration, le fonctionnement de l'association est structuré structurée de telle façon à ce que les habitants peuvent intégrer des groupes de travail de façon ponctuelle, tout simplement pour mettre en œuvre l'idée ou l'action qu'ils envisagent voir aboutir sur le secteur. Et ça peut être une intervention ou une aide sur, en one shot en fait, hein. Ils interviennent, ils développent l'action souhaitée, participent à la mise en œuvre si la faisabilité est avérée, bien évidemment, et ensuite ils peuvent très bien repartir sans être impliqués dans les modalités de gestion de la structure s'ils ne souhaitent pas aller plus loin.
Je sous-entends dans ce que vous dites que finalement le centre social appartient aux habitants.
Absolument.
Et pleinement.
Absolument.
Complètement.
Et pour le
c'est
coup,
c'est un très bon résumé de ce qu'est un centre social.
Sur le fonctionnement tout de même, il a été réparti en plusieurs axes. Si je ne m'abuse, il y a quatre axes. Vous me corrigerez quand j'irai des bêtises. Il y a un axe enfance-jeunesse, un axe vie locale, un axe famille et un axe, ce que vous appeliez les sections, les activités loisirs-détente.
C'est ça.
Il y a de l'interaction, j'imagine, entre tous ces axes.
C'est un de nos travaux principaux ou des différents travaux qu'on va engager, c'est vraiment de créer le lien entre les activités et le centre social. Il y a toujours eu des passerelles qui sont créées, mais là on veut les amplifier. En fait, sur les quartiers participent aux activités des gens qui sont au bord du quartier, qui sont pas forcément du quartier, mais ça crée une mixité sociale. Si des gens du centre-ville viennent sur les quartiers comme les nôtres, ben ça veut dire que on est capable de faire de la qualité avec des gens du quartier qui vont se mixer avec des gens d'un autre milieu, et ça c'est une richesse. Et vraiment une richesse et pas un appauvrissement des quartiers. C'est là où on va trouver les ressources complémentaires.
Sur le fonctionnement, vous vouliez rajouter quelque chose?
Juste, oui, simplement pour dire, c'est effectivement, l'une des fonctions d'un centre social et d'une association comme la nôtre, c'est d'ouvrir le quartier vers l'extérieur, de pas laisser le quartier le laisser enclavé et se gérer sur lui-même, mais l'ouvrir vers l'extérieur. Avec la participation aussi à des activités communes avec d'autres centres sociaux de la ville.
Sur le pilotage, donc on a parlé de la participation des habitants, qui est principale dans le fonctionnement. Il y a quand même aussi un coportage, parce que c'est un projet d'envergure, mine de rien, un centre social sur tout un territoire. Il est également accompagné par des partenaires principaux, comme la ville, ouais. Voilà, institutionnels, comme la ville notamment, et la caisse d'allocation familiale.
Alors, nos partenaires sont effectivement la CAF, qui est l'institution qui accorde l'agrément aux centres sociaux, qui soutient financièrement bien évidemment les actions et le financement des postes. Il y a également la ville d'Évreux qui est très présente, la Com d'Aglo, le PN, qui est très présente également, les services de l'État, puisque le centre social, en l'occurrence, se développe sur un quartier qui est éligible au crédit politique de la ville, ce qui nous, l'ambiance actuelle, nous crée quelques soucis, quelques questions, mais enfin bon, on continue quand même nos actions. Et puis, naturellement, d'autres partenaires financiers qui interviennent peut-être plus ponctuellement, comme le département, sur des actions bien spécifiques.
Donc il y a un réel maillage, voilà, et un aller-retour entre les institutions à différents échelons.
C'est un coportage.
Et la structure en elle-même. Je ne vais pas pouvoir résister à inviter Marina Tranchant, agent de développement, à la CAF de l'Eure. C'est ça, je dis des bêtises ? Conseillère territoriale à la CAF de l'Eure. Je vais vous inviter à vous asseoir à côté de moi. Je suis désolé, je vous prends comme ça un petit peu par surprise, mais je ne pouvais résister à l'opportunité d'échanger avec vous. On vient d'échanger sur ce portage des habitants, notamment, qu'on a ressenti comme étant hyper important dans le fonctionnement de la L2E, mais dans un fonctionnement centre social plus large. C'est vous, la CAF, qui délivrez ces agréments. Vous copilotez ces projets de centres sociaux. Quelle est un petit peu l'intention de la caisse d'allocation familiale et où est l'intention et le positionnement de la caisse d'allocation familiale sur ces centres sociaux?
D'abord, bonjour. Merci.
Oui, déjà, bonjour. Oui, c'était très long, hein, cette mise en place de ma première question.
Merci de me donner la parole. C'était pas prévu. La volonté de la CAF, c'est de tous ensemble pouvoir répondre aux besoins sociaux des familles, des habitants d'un territoire. Donc l'outil centre social pour nous est un outil qui nous paraît adapté. Comme vous disiez, vous avez beaucoup insisté, pour nous c'est important, sur la participation des habitants. Il ne s'agit pas que les professionnels réfléchissent tout seuls dans leur bureau et imaginent des projets, des activités. L'idée, c'est bien de, sur un territoire, créer les conditions à ce que les habitants puissent être accompagnés et créer eux-mêmes les réponses à leurs problématiques, forcément avec l'aide de professionnels. Mais comme M. Ozoul disait, je pense que c'est important d'insister sur le fait qu'un centre social, c'est vraiment un espace d'échange, de rencontres, de lien social et de participation. Il s'agit de rendre les habitants, je dirais, autonomes et participatifs et pas de faire à leur place.
Alors, mine de rien, il y a quand même des orientations qui sont données, alors institutionnellement bien entendu, et là c'est le maillage des institutions qui a diverses orientations, j'imagine. Il y a quand même un regard particulier de la CAF sur le fonctionnement global, non? J'imagine que vous travaillez avec la ville, que vous travaillez avec l'agglomération, au-delà de travailler avec la structure en elle-même.
Voilà. La CAF n'est pas seul financeur d'un centre social. Forcément, elle est cofinanceur avec d'autres partenaires que sont la ville, bien entendu, mais aussi l'État, puisque je ne sais pas si vous l'avez dit tout à l'heure, mais le quartier de Netreville fait partie des quartiers prioritaires politiques de la ville, donc il y a aussi les aides de l'État. Et tous ensemble, nous essayons d'accompagner l'association qui est à L2E et d'avoir des objectifs partagés. Mais je pense qu'aussi, le préalable, c'est le portage politique. Il faut que les élus du territoire aient envie d'accompagner et de soutenir le centre social.
La forme associée.
On ne peut pas faire l'un sans l'autre. La CAF ne peut pas faire tout seul, L2E ne peut pas faire tout seul, la ville ne peut pas faire tout seul, l'État, enfin voilà. On est vraiment sur un coportage institutionnel et un accompagnement de l'association.
Cette notion aussi de confier un centre social, ou en tout cas de travailler avec une association, ça veut dire quelque chose, j'imagine, parce que des centres sociaux peuvent avoir diverses formes,
être associatifs, peuvent être municipaux. Là, le choix, on en revient encore à la place des habitants, la participation des habitants. Une association, ça veut dire une vie associative, un conseil d'administration, des habitants participants. Donc c'est pas forcément la même optique qu'un centre social municipal qui peut être vécu comme un service municipal de plus sur un territoire. Là, on est bien sûr, on en revient toujours à la participation des habitants et la place des habitants. Et comme disait Monsieur Ozou, l'habitant, il peut venir la première fois pour participer à une activité, il peut donner son avis sur l'activité, il peut animer l'activité et puis faire un parcours et finir bénévole sur une activité, membre du conseil d'administration et puis un jour président. Voilà, un beau parcours.
Ça peut arriver.
Ça ressemble à votre parcours, oui, monsieur Ozou.
L'idée, c'est de laisser la place à tout un chacun, là où il en est, de son parcours personnel, de sa vie, de ses possibilités, puisqu'on sait que sur les quartiers prioritaires de la ville, il y a des problématiques sociales plus fortes que sur d'autres quartiers. Mais comme a dit monsieur Ozou, un centre social, ce n'est pas ouvert qu'à des publics en précarité, en fragilité. C'est ouvert à tous les publics, tous les habitants. Et l'intérêt, c'est que tout le monde se rencontre. C'est un espace aussi de mixité sociale. Et un espace ouvert où on rentre, on vient chercher ce qu'on a envie de chercher, on donne de son temps, on s'implique, on fait pour les autres, on fait pour soi. Et puis comme disait aussi Monsieur Ozou, c'est un espace qui se doit ouvert sur les autres quartiers, ouvert sur la ville, ouvert sur le monde, sur...
Je sous-entendais aussi là-dedans que finalement confier aux habitants eux-mêmes et aux citoyens cette construction de projet, c'était considéré aussi que c'était peut-être les mieux placés et en tout cas qu'ils étaient compétents pour savoir ce dont ils avaient besoin et ce dont ils avaient envie. Il y a cette notion-là.
Tout à fait, c'est ce que je disais au départ, on n'est pas là pour penser à la place des habitants, mais on est pour faire avec eux.
Et je pense que c'est la grosse différence qu'il peut y avoir entre un centre social associatif et un centre social municipal. La perception qu'a l'habitant sur les actions qui sont mises en œuvre par un centre social municipal peuvent être perçues comme étant une mise en œuvre d'action de façon descendante. C'est-à-dire c'est la commune, finalement, la ville qui impose la mise en œuvre de cette action. Le centre social associatif, il est ascendant. Enfin, c'est la perception qu'on peut avoir quand on est habitant d'un quartier. Il est ascendant, c'est-à-dire que c'est bien l'habitant qui décide de mettre en œuvre une action. Alors après, effectivement, il faut que ça rentre dans des schémas et que ça rentre notamment, que ça réponde aux constats qui ont été posés dans le cadre du diagnostic auquel je faisais référence tout à l'heure. Mais ça n'empêche que c'est beaucoup plus ascendant. L'habitant se sent certainement beaucoup plus acteur que lorsqu'on est dans le cadre d'un centre social municipal.
J'aurais envie de poser ma conclusion à nos échanges. Ça pourrait ressembler, il suffit de pousser la porte finalement du centre social pour pouvoir reprendre à part à l'action.
Complètement. Et alors j'ai peut-être de façon incomplète répondu à votre première question. C'est vrai que l'Amicale laïque Évreux-Est est une association neuve, puisque elle n'a une autonomie de fonctionnement que depuis le mois de juin, depuis le 26 juin pour être précis, 2017. Donc ramener à la vie des quartiers, c'est très récent naturellement. Donc on est en phase de structuration, mais on est là aujourd'hui aussi pour faire connaître les actions qu'on est capable de mettre en œuvre. Et c'est vrai que les habitants peuvent pousser la porte et venir participer à notre...
Ouais, je disais pousser la porte, aujourd'hui on est sur la pelouse, on est dehors, puisque la maison de quartier est toujours en travaux et qu'elle ouvrira peut-être début janvier si les travaux sont terminés.
Non mais il y a quand même des portes à pousser.
Il y a quand même des portes à pousser, puisque AL2E est présente la vocation géographique d'AL2E, c'est de couvrir le territoire de Netreville, où effectivement on a un petit problème d'utilisation de local, puisque la maison de quartier est en travaux, mais couvre également le secteur du Clos-Ouduc, avec une maison de quartier qui là est opérationnelle, ouverte, du lundi au vendredi soir, voire même le samedi matin pour certaines activités. Donc voilà, il suffit de prendre un contact, un numéro de téléphone peut-être c'est le 02 32 62 00 05.
Pas mal de mémoire, pas mal. Mais en tout cas, c'est présent également sur les réseaux sociaux. Il y a une page Facebook, ça marche beaucoup en ce moment, donc on peut bien entendu.
Tout à fait. Et puis l'idée, c'est peut-être d'aller au-delà des portes, ouvrir les portes, mais peut-être aller aussi. L'enjeu aussi pour le nouveau centre social, c'est peut-être d'aller vers les habitants, comme aujourd'hui, multiplier peut-être les formes pour aller vers, et peut-être ne pas attendre non plus que les habitants viennent pousser la porte. Donc c'est vrai que l'initiative d'aujourd'hui est sympathique. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde et que beaucoup d'habitants viendront voir ce qui se passe sur la pelouse.
Justement, je vais laisser la conclusion à Didier Rouchet, et notamment sur les rendez-vous à venir.
Alors justement, pour aller à la rencontre des habitants, aujourd'hui, on inaugure un peu les extérieurs. Le 1er octobre, il y a l'opération Petit Déjeuner, bien connue à la maison de quartier du Clos-Auduc. Le 11 novembre, il y a la forêt nourricière. Là, on sera vraiment dehors, dans les bois, en lien avec Alternativat. Le 15 et 16 décembre, ce sera le spectacle de Noël des enfants. Donc, qui était avec les familles, une forte participation. La faute de locaux, on va voir si ça fonctionne toujours aussi bien. Le 13 janvier, la galette des rois à la maison de quartier. Le 27 janvier, il y a un concert de musique plaisir qui est un orchestre de bénévoles des deux quartiers qui est vraiment de très bonne qualité. Il y a une soirée théâtre le 10 mars et du 12 au 16 mars, une activité théâtre. Bon, la journée de la femme ou la journée du droit des femmes le 24 mars. Et puis on espère l'inauguration de la maison de quartier de Netreville officielle du 2 au 9 juin.
Voilà, voilà c'est ça, la fin de la rénovation de la maison de quartier qui amènera à de beaux locaux pour l'Aile de Zeus sur le territoire de Netreville. Merci beaucoup à vous, Lucas Ozou, président d'AL2E, Didier Rouchet, vice-président d'AL2E, et Marina Tranchant. Alors j'avais oublié la fonction tout à l'heure. J'ai dit une bêtise quand je vous ai présenté de la caisse d'allocation familiale de l'heure.
L'important, c'est de retenir la caisse d'allocation familiale.
Voilà, de la caisse d'allocation familiale de l'heure. Merci beaucoup à vous trois d'avoir échangé sur ce cadre un peu plus général de l'AL2E. Bien entendu, nous poursuivrons à rencontrer tous ces acteurs de cette structure juste après une pause musical, si vous le voulez bien, Monsieur Pignon.
Avec le morceau Chamak Zabradaï.
J'ai l'intention de tenir l'antenne 24 heures sur 24 jusqu'à ma mort. Et puis même encore après s'il le faut.
Mais tu crois pas que ça pourrait peut-être finir par être légèrement monotone comme expérience pour l'auditeur ?
Principe actif, 102.4 FM.
Et nous sommes toujours en direct, en live et en public de cette pelouse juste devant la maison de quartier de Netreville, où bien entendu nous vous invitons à nous rejoindre. Autour de nous, il y a un atelier bande dessinée, il y a des jeux de société, il y a les bénévoles de l'association L2E qui échangent avec les personnes qui passent. Justement, j'en ai quelques-uns, moi, des bénévoles de l'association L2E, à savoir Thérèse, référente animation vie locale. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons Catherine, référente du secteur famille. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et puis aussi Catherine, qui est technicienne, animatrice sur ce secteur famille. Moi, je voulais revenir sur la notion, tout d'abord, d'animation de vie locale. Didier Rouchet, vice-président, tout à l'heure, nous évoquait une programmation riche de cette vie locale. Il nous évoquait aussi la construction par les habitants. Alors vous, Thérèse, vous êtes l'animatrice de ce réseau, vous êtes la référente de ce réseau. Comment ça fonctionne? Comment fonctionne ce réseau Animation Vie Locale?
Alors, c'est un réseau qui essaie de faire des actions qui nous ont été données par des habitants qui souhaitent, par exemple, mettre en place des randonnées. Les randonnées fonctionnent depuis très longtemps. Une fois par mois, le dimanche, des bénévoles proposent des randonnées à d'autres, aux habitants, aux adhérents de AL2E. Après, nous avons également des activités comme lecture partagée. Alors, autour d'un espace lecture qui est à la maison de quartier du Clos-au-Duc, il y a plusieurs actions lecture qui sont faites. Alors, la famille parlera certainement des contes en famille, mais moi, je vais vous parler des lectures partagées. Des adhérents, pareil, nous ont soumis le fait qu'ils avaient envie de se regrouper pour échanger sur les lectures. Donc, ce sont des actions, en fait, qui regroupent des adhérents de tous les autres secteurs, en fait. On est très plurigénérationnel, on va dire. On essaie de toucher tout le monde, toute catégorie sociale, tout homme, femme, enfant, jeune, vieux. On essaie vraiment d'animer le quartier d'Evreux-Est, on va dire.
Ça s'appuie réellement sur les habitants, sur les bénévoles, sur le fonctionnement, j'ai envie de dire, autonome des citoyens dans la structure dont ils sont emparés, quoi.
Oui, tout à fait. Le réseau Animation Vie Locale n'a pas de salariés. Ce sont toujours des bénévoles qui portent les actions. Alors, il y a une action très importante, par exemple, dimanche prochain, qui est un petit déjeuner qui est offert à tout le monde, à la maison de quartier du Clos-au-Duc. Ce ne sont que des bénévoles qui interviennent. Les bénévoles vont fabriquer des gâteaux, les bénévoles vont servir le petit déjeuner aux gens qui vont venir. On peut venir en famille, entre amis. Tout le monde vient. C'est également l'occasion de rencontrer nos partenaires. Partenaires financiers,
institutionnels,
etc., qui viennent à la rencontre des habitants de notre quartier. Voilà. C'est vraiment un très bon exemple, le petit déjeuner.
Alors, c'est vraiment le moment où finalement on invite à l'échange, à la rencontre, parce que dans l'organisation, quand on arrive pour le petit déjeuner, on s'installe sur des tables déjà partiellement occupées ou autres, et ça permet d'échanger, de discuter, puis de se connaître sur des moments un peu particuliers, qui est celui du petit déjeuner. C'est un prétexte, j'imagine.
C'est un prétexte, mais justement, oui, cette notion de partage autour, on fait des grandes tables de 8-10 personnes, donc forcément, quand on arrive à deux, on va s'installer avec d'autres personnes du quartier qu'on ne connaît pas forcément, et c'est vraiment un vrai échange autour d'un petit déjeuner qui est en plus un petit déjeuner copieux, agréable, qu'on ne prend pas tous les matins chez soi. On a des bénévoles par exemple qui nous fabriquent des gaufres, des crêpes, un petit déjeuner anglais. Donc c'est l'occasion c'est vraiment un vrai moment de partage et un vrai moment autour de la convivialité.
Oui, c'est pas comme ça chez moi tous les matins, je vous le cache pas.
Et on a même des enfants qui sont bénévoles, et j'avoue que on a des enfants qui sont très tous les ans des fidèles qui viennent nous aider à préparer. C'est vraiment très agréable.
C'est aussi aussi simple que ça de participer à la vie aussi de son quartier, finalement. Là, vous disiez, il y en a qui font des gaufres, d'autres qui viennent aider. J'imagine qu'on installe des tables, des chaises, peu importe. Mais en tout cas, c'est déjà participer à la vie du quartier, à la vie de la structure. C'est aussi simple que ça.
Tout à fait. C'est très simple. Et justement, les gens s'imaginent toujours que le bénévolat peut être surtout des contraintes. Là, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Si on a envie d'être bénévole que sur une opération petit déjeuner, on est bénévole au petit déjeuner. Ça implique pas forcément d'être là tous les jours à l'association. C'est vraiment un temps... on peut être bénévole sous plein de formes. Et dans l'animation vie locale, c'est vraiment des moments ponctuels où on peut participer à la vie de son quartier. Donc c'est sans aucune contrainte.
J'ai la sensation, moi, que cette animation vie locale, c'est un petit peu un espace proposé aux habitants, un espace de liberté finalement, où on peut venir mettre en place des choses, où on peut participer à la mise en place des choses. Oui. Et alors, sans dire qu'il n'y a pas de compte à rendre, mais en tout cas, il y a un côté un petit peu plus libre, en tout cas.
Voilà.
Comment ça s'organise? Il y a des comités au bout d'un moment où ça travaille pour savoir ce qui va être proposé?
Oui, on fait... alors cette année, ça a été un peu exceptionnel puisque la fusion des deux associations n'a pas permis le... Mais d'habitude, on fait une réunion, on propose une réunion un peu publique où n'importe qui peut venir et faire des propositions d'activités, en effet. Et généralement, toutes les propositions sont retenues. Voilà, on discute également avec nos salariés, animateurs, jeunesse, famille, qui connaissent eux également des familles du coin et qui peuvent en effet les inciter à venir participer. Mais tout le monde peut faire des propositions. On aura également une partie concert avec Musique Plaisir, qui est une de nos sections, mais ils nous ont proposé de faire un concert. Voilà, c'est vraiment un échange. Et c'est très riche et très varié. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est que tout le monde peut y trouver son compte. Enfin, moi, je suis persuadée que tout le monde peut y trouver son compte. Aller faire une randonnée pédestre 2 heures un dimanche après-midi, je pense que c'est vraiment ouvert à tout le monde.
On évoquait tout à l'heure la transversalité des secteurs, de comment est-ce que telle branche et telle branche vont bosser ensemble. On a justement le secteur famille juste à côté de nous, Catherine et Catherine. Il y a un petit côté Dupont et Dupont, hein, je vous le cache pas. Hein. En tout cas, nous avons Catherine et Catherine avec nous. Alors, avant de voir un peu quels sont les liens qui peuvent exister sur la vie locale et sur l'aspect famille, comment fonctionne ce réseau famille ? Catherine, peut-être. Voyez, en même temps, quand je dis ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Catherine, peut-être vous êtes référente bénévole. C'est important aussi cette notion, il y a un référent bénévole à chaque fois qu'il y a un technicien.
Oui, tout à fait, il y a un référent bénévole. Et en fait, ce référent bénévole fait le lien justement entre le salarié et le CA.
Conseil d'administration.
Le conseil d'administration. Et c'est intéressant de faire ce lien justement pour pouvoir faire connaître au CA au conseil d'administration les activités de ce pôle famille. Parce que c'est important quand on appartient à un CA, donc je parle en tant que bénévole, à un conseil d'administration, de faire passer ce qui existe dans l'association au niveau technique des choses pour que tout le CA puisse entendre et prendre parti de tout ce qui se fait au niveau de l'association. Et en tant que bénévole, c'est un rôle que je tiens à...
C'est important, ça veut dire qu'au bout d'un moment, et là je me retourne vers Catherine qui est technicienne et animatrice sur ce secteur, c'est aussi travailler avec les bénévoles derrière. J'imagine que ça doit impliquer quelque chose dans le fonctionnement, ça veut dire que derrière, finalement, on a beau être référent sur un secteur, finalement il y a quand même tout un collectif derrière qui
oriente. On est salarié d'une association.
Oui.
Donc à partir du moment où on est salarié d'une association, on doit rendre des comptes forcément aux bénévoles qui sont là, eux, pour une autre connaissance du quartier et qui peuvent apporter aussi des choses pour améliorer notre travail. Alors, c'est des échanges réciproques. Enfin,
ça veut dire qu'au bout d'un moment, il y a besoin.
C'est pas unilatéral. Enfin, comme c'est pas
descendant.
Que descendant. Voilà. Il y a des choses qui remontent et qui sont travaillées et par les bénévoles et par les salariés, et de ces choses, de cette mayonnaise, vont remonter des actions.
J'imagine qu'au bout d'un moment, pour mettre en place une action, il y a une volonté, bien entendu, de bénévoles, de personnes qui ont une vision, on va dire, plus politique de ce qu'on veut faire sur un territoire. Et puis, il y a besoin de technicité, parce que chacun n'a pas le métier de référent famille. J'imagine, Catherine, vous n'êtes pas dans la vie référent famille.
Non, pas du tout.
Et donc, du coup, il y a besoin d'une expertise, peut-être au bout d'un moment, d'un technicien qui va mettre en place ou en tout cas réorienter peut-être des fonctionnements.
Tout à fait. Et en animation vie locale, puisqu'on n'a pas d'animateur salarié, moi je me repose souvent sur Catherine, donc salariée, animatrice salariée, ou Karine ou Rodolphe. Quand on a des idées, certaines idées d'action, on peut travailler quand même en collaboration avec ses animateurs salariés pour mettre en place des choses. Et c'est très intéressant. On a un exemple, par exemple, la semaine, on fait une semaine des arts et de la culture. Là, c'est l'animation vie locale qui porte l'action, mais tous les secteurs sont impliqués. Tout le monde participe à cette semaine. Et c'est vraiment une semaine enrichissante pour les habitants, pour les adhérents, voilà, pour tout le monde.
Alors très concrètement, ce secteur famille, comment, qu'est-ce qu'il propose concrètement? On a bien vu la philosophie, là, on voit bien comment est-ce que ça travaille, ça mouline en arrière-plan, mais alors concrètement, ça se traduit par quel type d'action et pour qui?
Alors c'est des actions qui sont, après Catherine va les développer un petit peu plus, mais qui sont du tout petit au senior en fait. Hein. C'est vraiment l'esprit famille, donc elle a...
Au sens le plus large quoi.
Oui, tout à fait. Après, elle va les définir un tout petit peu plus.
Alors, oui, ça va effectivement du tout petit au senior. Ça va de la personne isolée à la famille. Ça passe par tout ce qui concerne la parentalité, avec des actions pour les familles pour les moins de 3 ans. Pour hier soir, par exemple, on était avec des familles pour essayer de programmer les vacances d'octobre, pour que ce soit elles qui amènent leurs idées, leurs envies pour faire la programmation des activités en octobre.
Toujours dans l'idée que finalement c'est les usagers qui sont les mieux placés pour savoir pour connaître les besoins et les envies.
C'est pour eux. Enfin, nous, on travaille pour eux. Donc,
il y a des méthodes de travail où on pourrait dire c'est ça qui est bien pour eux. Là, en l'occurrence, il y a un réel échange et ça se construit ensemble. Pardon d'insister là-dessus, mais
la participation est importante. La participation des usagers, bien évidemment.
Et pour continuer, si on va sur la programmation des vacances, après cette programmation des vacances va être présentée au CA et c'est le CA qui va nous dire ben oui, on peut continuer sur cette optique-là, non, peut-être tu pourrais réfléchir à ça. C'est ça le travail de transversalité qu'il peut y avoir entre des bénévoles et les salariés. Après, au niveau des autres... Au niveau des autres actions, lundi, il va y avoir un café des seniors sur les gestes d'urgence, où c'est pareil, c'est à la demande des personnes un peu plus âgées du quartier qui souhaitent se rencontrer tous les mois sur un thème qu'ils ont choisi. Donc on a fait Alzheimer, on a fait le diabète, on a fait et là c'était sur comment on appelle les pompiers si on est tombé, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire quand on s'est coupé, qu'est-ce qu'on doit faire quand on s'est brûlé, enfin voilà. Donc du coup il y aura un intervenant sur les gestes d'urgence, et puis après il y a un écrivain public.
Alors, c'est quoi un écrivain public ?
Alors, c'est de l'écriture publique à vocation sociale, le terme exact. Donc, c'est quelqu'un qui fait partie du CIDFF, qui est un juriste.
C'est une association de défense des droits des femmes et de la famille.
Voilà. Et qui vient une fois par semaine pour écrire des courriers qui peuvent être un peu complexes. Quand on fait une demande au niveau du handicap, il faut écrire son récit de vie. C'est quelque chose qui n'est pas facile à écrire parce qu'il faut expliquer son handicap et expliquer pourquoi son handicap empêche de faire certaines actions dans sa vie.
Et prendre du recul sur son propre vécu éventuellement.
Et c'est vraiment pas facile. Du coup, cette personne-là est là pour aider à faire ça, à discuter avec la personne, à le faire avec elle et à produire quelque chose qui après sera dans le dossier pour écrire des courriers qui peuvent être un peu plus juridiques par rapport au du logement, par rapport à un employeur, il y a déjà eu, voilà.
Alors au-delà, on évoquait la transversalité des réseaux, au-delà de ce que vous évoquiez là comme transversalité, il y a aussi des passerelles entre forcément j'imagine la famille et la jeunesse et l'enfance, ça paraît tellement évident. On a bien évoqué celles qu'il y avait avec la vie locale, qui sont évidentes, tout aussi évidentes, mais avec la jeunesse et l'enfance, ça paraît tout aussi évident, non ?
C'est indispensable. Les jeunes, c'est aussi des familles. Et donc du coup au niveau du référent, c'est sûr que c'est indispensable de travailler avec la référente jeunesse. Donc cette année, le projet qui est prévu pour 2017-2018, ce sera sur l'orientation. Travailler sur l'orientation. Donc il y aura 4 soirées de prévues avec des jeux, avec des animations, pour essayer de faire prendre conscience de l'importance de l'orientation aux jeunes et essayer d'aider les parents à orienter, à avoir un peu débit pour...
Oui, puis à y voir clair.
Pour
y voir clair, tout simplement.
Voilà, c'est ça.
Chose qui n'est pas forcément évident. Très bien, merci beaucoup à vous, Catherine et Catherine de ce réseau famille. Et merci à vous, Thérèse, également, sur l'animation vie locale. J'imagine qu'on peut rentrer facilement en contact avec vous sur l'animation vie locale.
Il n'y a pas de problème, oui, notre adresse.
On pousse une des portes de l'L2E.
On pousse une des portes, les agents d'accueil nous connaissent très bien et nous font monter toutes les demandes.
C'est ça, et on dit on veut rentrer en contact avec Thérèse, voilà. Et puis c'est parti.
Tout à fait.
Et très bien, merci beaucoup à vous. Monsieur Pignon, je me retourne à nouveau vers vous en vous proposant une pause musicale, si cela vous convient.
Stepping into your town, come on. Que te voy a llevar a que tú lo veas, come. Estamos listos para llevarlo más allá, come on. Este es el ritmo que te va a gustar. Deja que te suba la bilirrubina. De camino para la cima, vamos ya. Que vamos a formar la buena. Escucha, morir y gata, que está por la pena. Hasta bien entrar, la madrugada no se frena, nena. Es el ritmo que no miente. Métete, métete en pie, deja que no piense. Relájate y siente. Come, llévalo, llévalo. Venera, se dinamo. Se note la presión y la carga de corriente. Suéltate, métete en pie, deja que no piense. Relájate y siente.
Imam Baldi avec le morceau La Rumba No Miente.
Buenas noches. Tu parles espagnol?
Un poquito.
Mais tu crois que tu m'impressionnes? Moi, je sais dire allons à la plage, monsieur Renard. Vamos a la playa, señor Zorro.
Principe actif, le mix des cultures.
Et nous sommes toujours en direct, en live et en public de cette belle pelouse face à la maison de quartier de Netreville à l'occasion de cette porte ouverte de l'association AL2E, porteuse du centre social sur le territoire Évreux-Est. Et puis là, je m'approche un petit peu sous la tente et je vois des jeunes face à des rangées de sandwichs, de bananes et de poires. Bien entendu, je ne peux résister à aller leur demander ce qu'ils font. Bonjour, comment vous appelez ?
Je m'appelle Mathéo.
Chloé.
Et toi, mon grand ?
Julien.
Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Je vous vois devant une table avec des sandwichs. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui est en train de se passer ici ?
On est en train de vendre des sandwichs.
Voilà, tout simplement. Et puis, des fruits, j'ai l'impression aussi.
Oui.
Donc ça, c'est votre mission sur la journée. Qui c'est qui vous a confié cette mission ? Comment ça se passe ?
À L2E avec Karil, Rodolphe, etc., des animateurs.
Voilà, ils vous ont confié cette mission en disant aujourd'hui c'est vous qui êtes au comptoir, c'est ça ?
Oui.
Bon, ça se passe bien là ?
On l'attend que ça vienne.
Oui, parce que là il a un peu de bonheur, il est midi 20, les gens n'ont peut-être pas encore faim. Pardon ?
On attend parce que personne vient.
Mais je crois qu'ils sont en train de boire un coup juste en face. Là, vous avez un bar qui vous fait de la concurrence. Je crois qu'il y a un coup à boire en face. Et du coup, les gens sont encore à l'apéro. Mais vous êtes prêts pour servir les sandwichs ?
Oui.
Eh bien, très bien. Bon, on repassera tout à l'heure quand ce sera l'heure des sandwichs. Pardon ?
Moi, je suis prêt pour servir les chips.
Ah oui, c'est vrai que je vois là, il y a une pile de chips juste derrière, prêt à saisir un paquet et faire la formule. Je vois qu'il y a carrément la formule avec sandwich, fruits et chips. Et voilà, chacun est à son poste, ils sont trois. Et puis canette derrière, c'est vous, Karine, qui faites la canette derrière ?
Oui, apparemment, je suis chargée de donner les canettes et surtout de réceptionner l'argent, puisque tous les bénéfices reviendront donc aux jeunes qui ont participé aujourd'hui.
Très bien, Karine, je vous invite à me rejoindre sur le plateau radio. Il n'y aura pas d'encaissement pour le moment, hein, j'en suis bien désolé. Installez-vous, Karine. Alors, Karine, vous êtes la référente jeunesse, exactement,
oui.
Notamment sur les deux locaux, à savoir les locaux sur le 8 mai et également la Grange des Violettes qui est juste à trois pas de là où nous sommes.
C'est ça. Exactement, voilà. Donc on a maintenant deux locaux donc, qui sont prévus pour accueillir les jeunes, donc les mercredis, les vacances scolaires. Et voilà, donc là ça commence doucement sur Netreville, mais on a cet été eu un petit peu de monde, un petit peu de passage et on se fait connaître tout doucement.
Alors qu'est-ce qu'un secteur jeunesse selon la L2E ? Moi je veux savoir qu'est-ce qui s'y passe, comment ça fonctionne, c'est quoi la question ? Enfin c'est quoi la question ? Non pardon, c'est
tu
moi qui donne la question.
La
c'est moi qui donne la question. Mais je veux savoir un petit peu quel est l'objet de ces accueils jeunes pour la L2E.
Alors dans le cadre du centre social, on a un secteur jeunesse. Qui repose sur plusieurs projets. Déjà en premier lieu donc les espaces jeunes qui sont proposés aux habitants du quartier. Donc un sur à l'Étoile rue du 8 mai 1945 et puis un du coup sur Netreville à la Grange des Violettes. Les deux accueils accueillent les jeunes de 11 à 17 ans.
C'est collège-lycée ça hein.
Collège-lycée, voilà. Après, on fait aussi un accueil pour les CM2, hein, les futurs sixièmes, en fait. Ça leur permet de découvrir un petit peu le lieu et de s'habituer. Et on leur propose donc un planning d'activités sur les mercredis, les vacances scolaires. On leur propose aussi de pouvoir monter des projets, comme par exemple aujourd'hui la vente de repas qui se fait avec des jeunes de Netreville et du Clos-au-Duc, puisque les bénéfices leur reviendront pour qu'ils puissent justement soit partir en séjour pour un peu moins cher, ou acheter quelque chose pour l'accueil. Voilà, c'est de l'argent qui leur revient de toute façon.
Il y a une notion de participation encore, on l'évoque depuis le début de cette émission, notamment avec le président, le vice-président, il y a la CAF aussi insisté sur cette participation des habitants. Tout à l'heure, Thérèse, insister aussi sur la participation des habitants. Les familles aussi insistent sur la jeunesse également. Il y a de la participation à tous les étages.
Oui, bah, c'est le but dans le centre social. Du coup, on est là pour répondre à la demande des habitants. Et c'est vrai que les accueils jeunes, en fait, y contribuent, puisque du coup, c'est vraiment une demande des familles de pouvoir proposer des actions vers leurs enfants.
J'imagine que quand on est jeune, en plus, c'est très responsabilisant, c'est enrichissant de pouvoir aussi fabriquer son loisir. Parce que finalement, on n'est pas juste consommateur de son loisir, on est fabricant du loisir.
Du coup, on leur propose des animations qui sont un peu toutes faites, mais on leur laisse aussi, sur des temps particuliers, la possibilité de proposer ce qu'ils ont envie de faire. Pour tout ce qui est découverte, proposition de séjour et tout ça.
Mais ça s'apprend ou pas d'être acteur? Parce que moi, ça, c'est ma vraie question. Au bout d'un moment, on dit, tout le monde est acteur de ce fonctionnement, tout le monde participe. Ça paraît tellement évident quand on vous entend tous les uns les autres. Mais finalement, est-ce que ça s'apprend d'être acteur et notamment quand on est jeune, organiser ses loisirs, organiser ses vacances, c'est pas forcément une compétence qu'on a dès le début?
Non, c'est sûr. Au début, ils viennent plutôt en consommateur, c'est-à-dire qu'ils viennent participer, découvrir. Ils s'inscrivent sur des sorties, sur des activités qui sont déjà un petit peu clé en main. Et puis, au fur et à mesure, en fait, nous, on les accompagne pour justement qu'ils puissent, qu'on puisse leur faire ressortir des idées, qu'ils puissent dire vraiment ce qu'ils ont envie. Et on est là vraiment pour les accompagner à monter, en fait, leur projet. Alors, les animateurs sont quand même toujours derrière, puisque la mobilisation du public est quand même assez difficile. Il faut toujours les tenir. Les projets, c'est assez long à se mettre en place. Tout ça, c'est fait avec une équipe d'animateurs qui travaille donc à l'association. Et du coup, on a quand même deux animateurs, on est quatre en fait sur le secteur, quatre animateurs et puis un référent.
Alors au-delà des accueils que vous venez d'évoquer, celui du 8 mai et celui de la Grange des Violettes, vous intervenez aussi en extérieur, c'est pas quelque chose de fermé, c'est-à-dire on n'enferme pas les jeunes dans le local.
Non.
Mais au contraire, on va agir sur l'extérieur, les jeunes aussi agissent d'ailleurs régulièrement sur l'extérieur. Il y a cette notion d'ouverture et puis surtout d'aller chercher du partenariat ou de l'action commune, en tout cas avec un maximum de personnes.
Oui, alors du coup on fait aussi des projets avec les collèges. Notamment pour l'instant sur le collège Jean Jaurès, puisque c'est un de nos partenaires, on intervient en fait au collège.
C'est un des collèges sur le territoire ?
Territoire du Clos-au-Duc, les jeunes du Clos-au-Duc dépendent de ce collège, et c'est vrai que nous on propose en fait un groupe de parole au sein du collège et on participe en fait à des projets en commun sur Nétreville, donc le travail se fait doucement, mais on a eu déjà des contacts avec la principale pour travailler avec eux sur des projets. Après on a aussi tout ce qui est activité sur le temps du midi avec les écoles qui fonctionne sur le Clos-au-Duc et qu'on met en place là à partir du 2 octobre sur Nétreville. Donc on a rencontré tous les directeurs d'école élémentaire pour leur proposer ce projet. Et puis on a aussi toute la partie accompagnement à la scolarité qu'on met aussi en place pour les jeunes et le public encore un peu plus jeune, c'est-à-dire les élémentaires.
Très bien, je crois que vous avez brossé bien comme il faut le tableau.
Peut-être oublié certaines choses.
Moi, je voulais revenir sur la notion a été évoquée avec les différents autres réseaux que nous avons déjà eu à nos micros. Cette notion de travail également avec un conseil d'administration, avec les habitants. Alors, vous évoquiez le travail participatif avec les jeunes, mais il y a aussi tout un travail participatif avec les habitants. Alors pas forcément les parents des jeunes que vous recevez très directement, mais globalement qui représentent aussi les parents et les familles du quartier, notamment les bénévoles qui participent. Excusez-moi, je suis un peu flou dans ma question, je vous vois bien froncer les yeux, mais je vais éclaircir ça tout de suite.
J'ai le soleil en même temps, c'est super agréable le soleil, mais c'est vrai que je l'ai en plein dans les yeux. Désolé.
L'interaction entre le secteur jeunesse et puis un conseil d'administration fort aussi.
Franchement, qui est très présent et qui nous aide en fait dans toutes nos actions, qui nous donne un petit peu la ligne directive du coup de notre projet. Mais pour le coup, c'est vrai que sur l'association L2E, c'est quand même un conseil d'administration qui est vraiment très présent et qui nous accompagne. Voilà. Qui est à notre écoute. Donc voilà, il y a un travail qui se fait vraiment des deux côtés, aussi bien des salariés que des bénévoles et qui est très agréable.
Très bien, vous ne dérogez pas à la règle, alors tout le monde travaille avec les bénévoles. C'est là-dessus, moi en tout cas, que je ressens le plus d'insistance depuis le début des échanges que nous avons, qui est vraiment quelque chose d'assez global et qui fait des allers-retours entre des techniciens que vous êtes, qui avaient une voilà, une expertise sur certains éléments et finalement toute une partie de bénévoles qui eux savent ce qu'ils veulent et on pourrait dire le volet peut-être un peu plus entre guillemets politique au sens noble.
Oui, c'est ça, voilà. On leur laisse cette partie-là.
Très bien, Karine, merci beaucoup.
Merci à vous
d'avoir échangé à nos micros. Je vais tout de suite du coup profiter de la présence de Claire Viscard qui s'est installée en plateau. Alors Claire, en quelques mots, et vous rectifierez bien entendu la présentation que je vais faire. Donc vous êtes travailleuse sociale bien entendu, vous expliquerez un peu plus qui vous êtes dans un instant. Vous êtes la prochaine directrice, en fait le recrutement a été fait. Vous commencez d'ici une semaine ou deux, c'est ça, dans deux semaines précisément. Et donc nous avons échangé un petit peu durant les pauses musicales très rapidement et vous avez dit non mais moi j'ai des choses à dire aussi, donc nous allons donc vous équiper d'un micro et échanger avec vous dans l'ordre. J'aimerais bien savoir qui vous êtes, qui est Claire Viscard, qui va diriger ce centre social à L2E d'ici deux semaines. Qui est-elle, d'où vient-elle, qui est-elle tout simplement? Je vous invite à vous emparer du micro. Ah oui, on aime bien découvrir les humains, nous, avant de commencer une discussion de fond.
Merci, JC. qui est Claire Viscard? Écoutez, travailleur social, comme vous avez dit, cadre socio-éducatif, comme on appelle. Je viens de l'hôpital Paul Guiraud, Paris, Villejuif, où j'ai été directrice des centres de soins en addictologie. Il faut savoir aussi qu'avant d'aller à Paris, j'ai été chef de service à l'association L'Abri à Évreux.
Une association que nous connaissons
bien. Je suis une personne formée, on va dire, par Léona Zitunga de L'Abri. Tout le monde le connaît.
Exactement, oui.
Voilà. Ça va être, agréable de travailler avec une équipe que je vois très dynamique, tous ces bénévoles qui sont présents.
Alors, je voulais revenir, moi, sur un petit point. Vous avez été à L'Abri dans un centre hospitalier et aujourd'hui sur un centre social. Est-ce qu'il y a un lien dans la façon d'aborder les choses entre une structure telle que L'Abri avec énormément de... Alors, je vous ai pas demandé sur quel secteur vous dirigez sur L'Abri. Tout ça. Ah oui, voilà. Sur L'Abri, il y a de l'accueil, il y a de l'accompagnement, il y a de l'insertion, il y a énormément de l'hébergement, voilà. Exactement.
L'hébergement. Voilà.
Et donc, quel est le lien en fait entre une structure comme L'Abri qui propose énormément de services, un centre hospitalier et notamment sur je vais y arriver, vous allez m'aider sur le secteur addiction, c'est ça,
oui,
sur l'hôpital et un centre social. Quel est le lien un petit peu entre ces éléments?
Avant tout, il s'agit d'êtres humains, vous savez. Que ce soit en ZAPA ou en hébergement ou en centre social, d'abord, c'est autour de l'humain que l'on travaille. De compétences, j'ai été formée, je suis formée sur le secteur médico-social.
Et donc dans médico-social, il y a social.
Social, voilà.
ça se tient, jusque-là ça se tient.
C'est pour ça que je suis un peu partout. Je suis de l'hôpital, je suis du centre social, et je suis de l'hébergement, voilà. C'est mon métier.
Très bien. Donc voilà, on a brossé un petit peu le tableau. On aura l'occasion, j'imagine, de recroiser le micro dans les temps qui viendront. Et puis on en saura un peu plus sur vous au fur et à mesure de nos rencontres.
Oui.
Mais tout à l'heure, spontanément, on m'a dit, mais moi aussi, je peux prendre la parole.
Oui.
J'ai des choses à dire.
Oui.
Vous avez assisté aux échanges qu'on a eus avec Lucas Ozou et Didier Rouchet, ainsi que Marina Tranchant, donc président, vice-président et agent à la CAF de l'heure.
Oui.
Il y a des éléments qui vous ont fait réagir en particulier?
Oui, tout à fait, parce qu'en écoutant Marina et Lucas s'exprimer, je me suis dit, et aussi en voyant ce qui se passe là, sur cette petite pelouse, un centre social, vous savez, est fait par et pour ses habitants. Voilà. J'insiste sur le fait que les habitants, les personnes qui vivent sur le territoire Évreux-Clauzeau-Duc doivent participer, doivent être acteurs.
Nettreville-Clauzeau-Duc, je me permets juste de rectifier.
Nettreville-Clauzeau-Duc, voilà, doivent être acteurs de ce centre social. Il faut qu'ils participent en nombre, il faut qu'ils proposent. Voilà, je tenais à dire ça. parce que mon équipe et moi, enfin, je commence le 2 octobre, en fait, je rectifie.
Mais oui, vous êtes déjà projetée dans, voilà. dans le boulot. C'est plutôt mal.
Je suis déjà prête, au taquet. Nous attendons tout ce monde-là pour qu'on puisse travailler ensemble sur notre territoire.
Alors aujourd'hui, vous l'avez souligné, il y a une base solide, enfin une base forte de bénévoles. Enfin, ouais. Nous le constatons aussi, nous, là, en installant notre studio. Mais est-ce qu'au-delà de ça, il y a des stratégies à mettre en place pour mobiliser au mieux ou pour développer ces choses-là?
Ah oui, l'aller vers, enfin, faut pas... Les gens dans leur appartement ou leur maison, il faut aller vers eux. Il faut motiver les gens à participer à la vie de la cité. Voilà, il y a des stratégies, effectivement, là ce matin, nous sommes là réunis autour de ce petit pot d'accueil, ça fait partie de la stratégie. Moi, je vous parle à la radio, là, ça fait partie de la stratégie.
Et mais moi qui croyais que c'était juste pour le plaisir d'échanger.
Non, ben écoutez, je vous disais qu'on était, un centre social est fait par et pour ses habitants. Voilà. Il faut que les habitants sachent que l'équipe est là pour les accueillir, pour les accompagner, pour les aider et à être acteurs du projet social, de ce centre social. Voilà.
On l'a souligné depuis le début de cette émission, cette interaction entre le conseil d'administration, qui est clairement une plus-value que l'AL2E met en avant, et c'est le fonctionnement réel de la structure. Un conseil d'administration fort en interaction avec les équipes techniques, les équipes salariales, ça aussi c'est important, j'imagine, toujours dans cette même perspective.
C'est important, les bénévoles, un conseil d'administration c'est avant tout un ensemble de bénévoles, un centre social ne peut pas exister sans les bénévoles.
Il y a différentes façons de faire vivre un conseil d'administration aussi, et ça, nous le savons bien.
Oui. Ben, écoutez, le fait qu'il y ait ce conseil d'administration très présent, comme vous l'avez dit, c'est une plus-value. Voilà. Ça veut dire que ce sont des habitants d'un territoire qui se sont réunis, qui ont étudié, travaillé un projet de territoire et qui disent, ben, venez, on va faire ça pour notre bien, pour le bien de notre territoire. C'est une plus-value.
Alors, tout à l'heure, c'est vous qui m'avez plus ou moins directement interpellé en disant « mais j'ai des choses à dire, j'aurais envie de vous laisser, j'aurais dire, une tribune libre avant que nous poursuivions, bien entendu, les échanges avec ces personnes qui font la vie de ce moment-là et plus largement la vie de l'association. »
Bien, ceux qui m'ont précédé dans la prise de parole, vous avez vu toutes les activités qui ont été développées, expliquées. Moi, je demande aux habitants de notre ville, du Clos-au-Duc, de venir vers le centre social. Le centre social ira vers eux pour que nous puissions mettre en place et construire et conduire ensemble le projet social.
Très bien, bah merci beaucoup à vous Claire Viscard qui avait commencé déjà à votre stratégie, comme vous me le disiez tout à l'heure, avant même d'avoir pris des fonctions. 2 octobre, vous êtes visible dans les structures.
Dans les lieux de la structure.
Très bien, bah merci beaucoup à vous Claire
beaucoup.
D'être passée par nos micros.
Merci beaucoup.
Monsieur Pignon, je me retourne à nouveau vers vous en vous proposant une pause musicale, si vous le voulez bien.
Benny Denyeba
Fama et les Tontons Friends. Le morceau s'appelle Madomba.
C'est trop bien la radio.
Principe Actif 102.4 FM.
Et nous sommes toujours en direct, en live et en public de cette pelouse de la maison de quartier de Netreville à l'occasion d'une porte ouverte extérieure. Bah oui, elle est tellement ouverte que nous sommes sur la pelouse de l'association AL2E, l'amicale laïque Évreux-Est, qui propose d'échanger avec les bénévoles, de participer à un atelier BD, si j'ai bien tout suivi, mais ça, je vous raconte ça dans un petit instant. Ils ont remballé le coup. Non, j'allais dire, il y a un coup à boire. Bah oui, parce que j'avais pas vu, là. Ça va nous passer sous le nez, hein, monsieur Pignon. Hein, le temps qu'on finisse l'émission, vous verrez, ils auront tout rangé. Mais bon, ça, nous le verrons bien. Il y a des jeux de société, en tout cas, une invitation aux habitants à venir échanger, discuter avec bien entendu l'association L2E, mais entre eux aussi, hein, pourquoi pas. Et justement, je suis devant un stand, une table en fait, sur lesquelles énormément de choses sont posées dessus. Et il y a Odile juste devant moi. Odile, vous êtes référente de ce réseau Détente Loisirs. Bonjour à vous. Qu'est-ce qu'un réseau Détente Loisirs ?
Alors, le réseau Détente Loisirs, c'est la somme de toutes les activités. Nous avons 51 activités dans l'association AL2E. Et donc, je suis là pour, justement, parler des activités, les présenter et voir faire des inscriptions.
C'est parfait, je vois que voilà, tout est équipé devant vous. Alors, je me rapprochais de vous pour échanger, parce que vous aviez Frédéric Biel juste à côté de vous il y a 2 secondes, et au moment où j'arrive avec le micro, il n'est plus. Voilà, c'est la magie du direct, c'est pas grave. Nous l'interpellerons un peu plus tard, sinon... Ah, vous savez où il est, il s'est caché, c'est ça? Ben voilà. Ah ben, Odile ne renonce pas comme ça. Hein. Je disais, je m'étais approché d'Odile parce que justement, Frédéric, vous étiez juste à côté. Au moment où on se retourne, vous n'êtes plus là, mais Odile ne lâche pas le morceau. Elle est venue vous chercher. Voilà. Alors, en fait, Odile nous expliquait quelle était là pour toutes les activités du réseau Détente Loisirs et notamment dans le réseau Détente Loisirs. Frédéric, vous proposez un atelier bande dessinée et aujourd'hui aussi en particulier.
Oui, alors là, ce matin, effectivement, je suis présent sur le site pour animer un atelier, on va dire, une sorte d'initiation dessin BD, puisque là, il n'y a pas longtemps, on vient d'ouvrir un atelier BD à la L2E. Voilà.
Alors, on va se rapprocher du plateau. Ça déplaît à notre réalisateur, Monsieur Pignon, que nous discutions ici. Vous voyez, il nous a fait les gros yeux. On va se rapprocher du plateau. Ça a l'air de mieux lui convenir. Et je vous invite à vous installer juste là parce que, proposer des activités fort bien. Mais c'est dans le cadre de la structure AL2E, qui est un centre social. Et justement, je voulais vous questionner. Alors, l'un l'autre, vous, Odile, avec votre casquette de référence de ce réseau Détente Loisirs, et vous Frédéric avec cette casquette d'intervenant sur une activité, ça veut dire quoi d'intervenir sur de l'action loisir dans le cadre d'un centre social? Est-ce qu'il y a une résonance particulière?
Alors c'est important d'avoir des activités de temps de loisir dans un centre social, parce que ça permet vraiment de rendre très 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 concret le lien entre diverses populations. Donc le président tout à l'heure vous a indiqué combien était important pour l'association de la mixité sociale, de créer du lien. Eh bien, à travers des activités, nous amenons différents publics à différents moments dans l'association.
Vous, Frédéric, on s'est croisé la semaine dernière, on va pas se mentir, on s'est croisé la semaine dernière dans un autre cadre, c'était celui de la Maison des Arts, où vous animez d'ailleurs un atelier également autour de la bande dessinée. Oui. Est-ce qu'il y a une façon d'intervenir différente entre la Maison des Arts, qui est un lieu clairement en centre-ville identifié comme étant également un lieu d'apprentissage, et un centre social qui propose un atelier BD? Est-ce que ça s'appréhende différemment ou est-ce qu'il y a des particularités en fonction des lieux?
Alors bon, pour l'instant, j'ai pas encore énormément de recul. Ça va se faire un petit peu avec le groupe qui va se constituer, qui est en train de se constituer. Ça dépend vraiment de l'alchimie particulière d'un groupe, parce que le groupe de la Maison des Arts est quand même très hétéroclite. Mais bon, c'est une vingtaine de personnes, des ados, quelques adultes. Enfin bon, voilà. Là, je découvre, mais quelque part parle, la philosophie est un peu la même. Bon, moi, je suis auteur de BD. Mon but est de faire partager un peu mon expérience, si on peut dire. Le fait, surtout que chaque personne, chaque enfant, chaque adulte ou ado, puisse découvrir ce qu'il a envie de faire, en fait, ce qu'il a envie de raconter, ce qu'il a envie de dessiner, et de pas d'imposer une technique, une méthode. Bon.
Oui, c'est pas un cours, on va dire, bon, bah, aujourd'hui on fait un personnage, demain on fera les objets.
Non, c'est pour ça que je tiens au terme, au nom, enfin, à ce nom d'atelier. Donc c'est l'atelier BD, parce que c'est quelque chose de, comment dire, de, c'est en mouvement, et j'essaye par contre d'être au service et d'être présent auprès de chaque élève et de l'accompagner dans sa démarche, voilà, quel que soit son âge, quelles que soient ses envies.
Odile, du coup, on a évoqué durant tout le début de cette émission que la majeure partie des choses, voire la quasi-totalité des choses proposées par la L2E émanent des habitants, et soit du conseil d'administration, qui sont aussi des habitants pour une bonne partie, soit directement de demandes des habitants directement. Est-ce que voilà, la création de cet atelier BD, parce que c'est une nouveauté de cette année, émane d'une demande d'un fonctionnement particulier avec les habitants, avec les usagers, avec le conseil d'administration, ouais. Comment ça a fonctionné?
Ouais. Alors ça s'est fait en fait plutôt à partir du conseil d'administration qui souhaitait développer les activités du mercredi pour les enfants. On était un petit peu pauvres sur les activités enfants. Donc, on a créé plusieurs ateliers le mercredi, et donc la BD, mais aussi le street art.
C'est quoi ça, le street art? Quand on dit atelier street art, on pourrait tout mettre et rien mettre dedans. Hein. Audi, je vous préviens.
C'est le dessin de rue. C'est un dessin très primitif. C'est aussi l'art africain. Donc, j'ai réussi à trouver un prof qui va... elle aussi, parce que c'est une dame, être très très proche de ceux qui viennent là pour réaliser des choses très concrètes en dessin, en collage, à l'encre, donc faire des fresques, faire des tableaux, donc c'est comme ça que c'est né, voilà.
Alors quand vous évoquiez que c'était suite à un constat du conseil d'administration qui disait un peu pauvre sur des activités enfants et du coup rechercher de nouvelles activités innovantes pas encore proposées, c'est déjà de la politique ça finalement, enfin c'est savoir une vision politique. Je ne veux pas rentrer dans un débat ou autre, mais c'est pour donner de la profondeur
claires.
Dans
avoir
la
des voilà. Idées claires, avoir savoir vers où on veut aller. Donc on veut effectivement que les activités soient pour le plus grand nombre, qu'elles soient pas académiques. Je crois que dans toutes nos activités, c'est vraiment un lieu d'échange. Il y a même des endroits où la technique est presque accessoire. Ce qui compte, c'est de se retrouver. Et c'est pour ça que finalement, année après année, les personnes reviennent parce qu'elles ont trouvé des copains, des copines, enfin, et donc viennent discuter. Donc il y a souvent autour d'un café, autour d'un petit déjeuner, un goûter, choses comme ça. C'est très important.
C'est en fait autant un lieu de vie finalement qu'un lieu d'activité.
Oui.
Est-ce que vous avez des attentes particulières quand vous intégrez de nouvelles activités en tant que centre social? Parce qu'on a bien senti que ça voulait dire quelque chose quand même à travers tous les axes, tous les réseaux. Le fait que ça se passe dans le cadre d'un centre social, ça voulait dire quelque chose pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des attentes particulières? Est-ce qu'il y a des échanges particuliers avec les intervenants, notamment sur les activités?
Alors, l'attente commune partout, c'est la communication. C'est qu'effectivement, nos animateurs ou les référents parlent pas simplement de leur activité, mais aussi de tout ce qui se passe. Donc, la semaine dernière, on a parlé de cette journée porte ouverte dehors. On va parler la semaine prochaine du petit déjeuner. Donc, c'est important parce que c'est créer les opportunités de se retrouver en dehors de son activité. Donc, la communication, c'est important.
J'imagine que tout le monde y est réceptif, forcément, à ce lieu de vie, enfin cette notion de lieu de vie qui est explicitement énoncée par la L2E, à cette notion de communication. J'imagine que quand on est intervenant sur un atelier, c'est même plutôt pas mal de se dire que bah, ça va communiquer inter-atelier, avec sûr. Tout le monde, quoi, oui, et oui, pas oui. être isolé dans son coin.
Et c'est vrai que ce côté lieu d'échange et de rencontre, ça compte beaucoup. Et ce qui est drôle, c'est que les premiers élèves que j'ai eu là, notamment ceux de la semaine dernière, quand je leur ai demandé un petit peu ce qui les amenait là, c'était des enfants de 10 ans, de bon, 12 ans, m'ont dit que c'est parce qu'ils avaient envie de rencontrer des gens. Bien sûr, ils aiment le dessin, mais il y en a deux garçons qui m'ont dit « Ah ben moi, je viens là, j'ai envie de rencontrer des gens, tout ça. » Bon, alors il était complètement dans la philosophie du lieu. Voilà.
C'est ce que vous évoquiez il y a quelques instants, Odile, où parfois la technique devient accessoire et ça devient juste un prétexte.
Alors, ne disons pas qu'on est dans la technique, parce que on a des animateurs qui sont vraiment des professionnels, diplômés, donc ils sont vraiment là pour apporter à ceux qui le souhaitent des choses très concrètes et très pointues, mais accompagné de ce côté très convivial. Voilà.
Je ne me le serais pas permis, bien entendu, Odile, de dire ça. Merci beaucoup à vous, Odile. J'imagine qu'on peut encore se rapprocher de l'association pour les activités.
On peut encore s'inscrire, il y a encore de la place, et s'il n'y en a plus, on en trouvera.
D'accord, ben c'est parfait. Merci beaucoup, Odile. Merci, Frédéric, d'être passé par nos micros. Moi, Monsieur Pignon, je vais poursuivre mon petit tour, parce qu'il y a encore un endroit où je n'ai pas été, et vous savez bien comme je suis, hein, je n'aime pas partir des endroits sans avoir été partout. Et juste derrière moi, il y a quelques panneaux. Ah bah mince, je croyais que notre camarade Robin était là. Eh ben tant pis. En tout cas, voilà, juste derrière là où j'étais, il y avait ce panneau de la forêt nourricière, qui est un projet qui va se mettre en place sur Netreville, normalement d'ici très peu de temps. Alors la forêt nourricière, je vais essayer de vous en dire quelques mots. C'est dommage que Robin soit pas là, il était juste derrière moi tout à l'heure. Et voilà, mais ça, c'est la magie du lieu. On tourne, on vire, on tourne la tête et les intervenants peuvent apparaître ou disparaître en fonction du besoin. En tout cas, voilà ce projet. Il y avait un projet sur Netreville et ça, je voulais quand même le souligner. Un projet de forêt nourricière. Alors, la forêt nourricière, c'est quoi? C'est des plantations d'arbres et de plantes. En tout cas, tous ces arbres fruitiers ou ces légumes qui sont à la disposition eh bien, des habitants. Chacun peut y venir faire l'entretien, chacun peut y venir faire sa propre récolte. Ça fait partie d'une démarche notamment portée par la structure Les Incroyables Comestibles, vers qui je vous invite à vous rapprocher, bien entendu. Sur tous ces ateliers et sur tous ces éléments, c'est Alternativa qui propose de centraliser. Alternativa, c'est le collectif qui centralise toutes, d'ailleurs, mais un bon nombre d'associations qui interviennent sur l'environnement. Oui. Vous disiez, oui, Monsieur Pignon, vous vouliez prendre la parole.
Une petite remarque.
Vous leviez le doigt au fond.
Oui, exactement. Une remarque sur Alternativa. Je ne sais pas ce qu'il en est pour Évreux, mais un petit clin d'œil. Le village Alternativa, c'est la semaine prochaine à Rouen, le 30 septembre, du côté du parc Gramont. Voilà, on aura l'occasion d'en parler dans la matinale.
Non, mais
dans
vous
la
faites semaine. Bien de le dire. Vous faites bien de le dire. C'est qu'en fait, sur Évreux aussi, ce sera la semaine prochaine.
Si ça se trouve, c'est le même jour.
De mémoire. Mais oui, c'est le même jour. Attendez.
On n'a pas toutes les.
Mais non, mais alors, le problème, c'est qu'ils ont scotché. Ils ont scotché les feuilles et je suis en train de tendre le câble jusqu'au bout. Voilà, on a Odile. Voilà, Odile qui est de tous les. Mais oui, mais attendez, Odile est en train de justement. Et tous les combats, elle m'interpelle, elle me dit « Mais non, j'y sais, regarde, c'est voilà. » Aujourd'hui, les stands de Oui, c'est possible qui se déroulent place du Miroir d'Eau à Évreux. On vous a bien entendu à y aller. Demain, c'est à Arnières-sur-Iton. Il y a la place au vélo dans l'espace urbain. Tiens, ça, c'est une bonne question sur Évreux à se poser. Quelle est la place du vélo dans la ville d'Évreux, mais pas seulement, un peu à tous les entours. Et la semaine prochaine, lundi, notre maison brûle-t-elle. Ce sera à la maison de quartier de la Madeleine. Ça va être un atelier débat. organisée par l'association Heure en Transition. Il y aura également des réflexions sur la monnaie locale. C'est assez intéressant d'ailleurs de se poser toutes ces questions. Ce sera vendredi prochain. Et puis, il y aura de l'animation toute la semaine qui suit derrière jusqu'au 6 octobre. Voilà, on leur aura fait bien à Alternatiba parce que ça vaut le coup. Et on vous invite à aller se promener sur leur site. Sur leur Facebook également, toutes les informations sont disponibles. Rapprochez-vous de ce lieu. Monsieur Pignon.
Juste complète et je termine et après je vous rends la parole sur Alternatiba concernant le village Alternatiba du côté de Rouen. Ils seront à l'antenne mardi entre 17h et 18h dans le Blabla Mix et on aura un petit échange pour faire une piqûre de rappel vendredi matin dans le Pire Reste à Venir entre 8h et 9h. Voilà pour avoir un programme un peu plus complet sur ces questions d'alternatives, notamment sociales, citoyennes et environnementales.
Merci beaucoup Monsieur Pignon pour ces précisions. Nous arrivons à la fin de cette émission qui était autour de la porte ouverte de cette structure, la L2E, le centre social Netreville et le Closoduc. Écoutez, on était bien, on était quand on parle de porte ouverte en fait c'est ne fermez pas la porte parce que sinon on sera enfermé dehors. Hein. Nous sommes sur la pelouse de cette maison de quartier où tout va bien, le soleil brille. On vous invite à nous rejoindre jusqu'à 18h, vous pouvez venir à la rencontre de l'association, de ses bénévoles, des actions qui sont proposées, bien entendu. Nous aurons fait une belle émission tout de même. Hein. Nous aurons eu ces acteurs, ces bénévoles, ces salariés de l'équipe L2E et puis un petit peu de l'entourage qui va autour. Pour Radio Propulser cette émission jusqu'à vos oreilles, nous avions, comme je le disais en début d'émission, l'invincible Monsieur Pignon qui aura réalisé à merveille cette mission. Restez à l'écoute de nos programmes. D'ici une heure, nous retrouvons le Gordon Show qui sera suivi avec une petite heure de battement, bien entendu, par Collateral Damage, une émission encore toute fraîche sur nos ondes. Restez à l'écoute, j'ai envie de vous dire.
C'était impressionnant quand même.